France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est à la recherche d'Iris Murdoch que nous avons décidé de nous lancer. Son nom vous fait peut-être penser à celui d'une détective privée britannique et vous n'avez pas tort. Née en Irlande, Iris Murdoch est devenue l'une des grandes voix d'Oxford qui, au long du XXe siècle, à travers ses essais et ses romans, avait une quête, percer le mystère de la vie humaine. Quête semée d'embûches, car comment en découvrir la vérité si le langage peut mentir? Comment devenir meilleur si les autres ont une existence opaque? Et surtout, faut-il percer ce mystère sans réduire les individus à des systèmes abstraits et inanimés? Toute cette semaine, c'est celui de sa pensée à elle, Iris Murdoch, que nous allons tenter de percer, de quoi jeter la lumière sur une philosophie injustement restée dans l'ombre.
J'ai donc le privilège de vous présenter une de nos plus éminentes diplômées, et professeur émérite, Dame Iris Murdoch. C'est une philosophe de renom et l'auteur de quelques 26 romans. Et c'est un grand honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Dame Iris est venue nous parler de l'importance de l'éducation.
Ce n'est pas l'éducation qui apporte le bonheur, ni la liberté. Nous ne trouvons pas le bonheur parce que nous sommes libres, si nous le sommes, ou parce que nous avons étudié, si c'est le cas, mais parce que l'instruction est le meilleur instrument nous permettant de nous rendre compte de notre bonheur. L'éducation aiguise nos sens. Elle nous indique où les délices se cachent. Elle nous convainc qu'il n'y a qu'une liberté, une seule dont l'importance soit vitale, celle de l'esprit. Elle nous donne l'assurance qui nous permet de suivre le chemin que nous montre notre esprit, cet esprit que nous avons cultivé.
Bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Géraldine Mosna-Savoie.
Merci d'être avec nous pour ouvrir cette semaine sur Iris Murdoch. Vous êtes professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien puisque vous clôturez chaque jour cette émission avec votre chronique Le Pourquoi du Comment. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres sur Bergson, sur Sartre et d'une préface à un essai d'Iris Murdoch. Comment l'avez-vous découverte?
À vrai dire, cet essai d'Iris Murdoch sur Sartre, qui est son premier livre en 1953, c'est un livre de philosophie qui l'a fait basculer vers la littérature complètement, à un moment très précis de l'histoire. Mais non seulement je me suis pris de passion pour ce livre, mais je l'ai même traduit. C'était l'effet d'une rencontre d'abord avec les romans d'Iris Murdoch. Iris Murdoch est aujourd'hui très méconnue. Elle revient beaucoup par la philosophie. Elle était réduite à ses romans avant, et la difficulté, c'est de tenir les deux ensemble, c'est-à-dire c'est de comprendre comment c'est une extraordinaire romancière. Vraiment, je pense que chacun de ses 26 romans est un chef-d'œuvre à part entière. Je les ai lus et relus. Pas tous relus, mais tous lus. Et en même temps, c'est une philosophe importante, très méconnue. Le lien entre philosophie et littérature chez elle, à mon avis, traverse toutes les grandes étapes du cœur du XXe siècle. Le moment de la guerre, le moment juste après, et les années 70, et elle nous conduit vraiment au cœur du moment présent, je le crois vraiment. Et c'est vraiment par son œuvre littéraire que je suis revenu vers sa philosophie, et que le livre sur Sartre m'a arrêté comme une double surprise, à la fois sur elle et sur Sartre.
Alors Iris Murdoch, elle est née en 1919, elle est décédée en 1999. Elle a d'abord fait des études de philosophie à Oxford. On parle du quartet d'Oxford avec aussi Philippe Afout, Elisabeth Anscombe et Marie Midgley. Et elle rencontre Sartre, elle rencontre aussi Wittgenstein. Ce qui est compliqué avec elle pour la définir, c'est de se demander si on doit véritablement d'ailleurs la définir. Là, on voit bien, vous hésitez, Frédéric Worms, philosophe, romancière. J'en profite quand même pour dire qu'elle est entrée dans les programmes de philosophie au lycée depuis la réforme du bac.
En France.
Est-ce qu'on la connaît mieux pour autant? Est-ce qu'on pourrait vraiment se dire, voilà, est-ce que quand je la cite dans un devoir de philosophie, je cite une philosophe ou je me sers d'un exemple d'un roman?
Alors, j'ai aucun mal à la définir. Hein. Elle a, à mon avis, un noyau dur de sa pensée qui explique à la fois ses œuvres philosophiques et ses romans. C'est exactement comme pour Sartre. Et d'ailleurs, au fond, ce qui l'intéresse chez Sartre, c'est cette articulation de la philosophie et de la littérature. Elle va vers Sartre depuis la philosophie. Tout à coup, ça l'amène à lire ses romans. Et en fait, elle trouve la même intuition dans les romans que dans la philosophie. Comme Sartre, comme Camus et un peu Simone de Beauvoir, explique pourquoi la philosophie doit passer par le roman. Et elle dit, au fond, ça doit être encore plus profond, enfin, ça va encore plus loin, puisque finalement, elle reproche à Sartre d'avoir abandonné le roman ou d'avoir raté sa deuxième série de romans. Et elle essaye de réussir ce que Sartre a, selon elle, en partie manqué, c'est-à-dire cette incarnation de la même pensée dans la philosophie, dans la théorie générale et dans la description, la narration des drames singuliers des vies individuelles et donc dans le roman. Et elle essaye donc de réussir sur les deux plans, mais avec une seule et même pensée. Donc j'ai aucun mal à la définir. Ce qui est amusant, c'est qu'elle revient aujourd'hui, à la fois en France et dans le monde anglo-saxon, aussi par un troisième angle, mm-hmm. et je crois que vous allez le couvrir, qui est l'angle féminin ou féministe, puisqu'on dit le Quatuor d'Oxford, mais c'est tout récent. C'est ce livre que je trouve d'ailleurs remarquable de Claire McConnell et Rachel Wiseman, The Oxford Quartet, le Quatuor d'Oxford, sur quatre philosophes, des femmes philosophes dans l'Angleterre du milieu du siècle. Elles expliquent parfaitement que jusque-là, les femmes étaient interdites, quasiment, à Oxford, que la guerre envoie les hommes sur le front et que ces femmes, du coup, peuvent percer pendant la guerre avec des épreuves dramatiques, personnelles, amoureuses, politiques. Iris Murdoch est aussi militante au Parti communiste. Elle va partir en Autriche et en Europe juste après la guerre pour s'occuper des réfugiés. Elle est très engagée aussi politiquement. C'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Et ces quatre femmes qu'elle décrivent sont en effet un quatuor extraordinaire, avec Philippa Foot, Née Bosanquet, avec Elisabeth Anscombe, qui est aussi une grande philosophe, qui a été, elle, au programme de l'agrégation en France. Et en France, on a l'impression que c'est par ce biais, et il faut s'en féliciter, même si parfois il faut en faire un peu trop pour réparer ce qui n'a pas été fait assez. Donc, pour mettre des philosophes femmes au programme, je pense que c'est pour cette raison que l'institution française a mis Iris Murdoch au programme
de philosophie. Parce que c'était une femme, vous voulez dire.
Je crois quand même, parce que tous ces livres féminiser. Même ne sont pas encore traduits. Moi, j'ai traduit le Sartre, il y a quelques textes qui sont traduits, mais par exemple, cet extraordinaire recueil qui s'appelle « Existentialiste et mystique », où il y a les textes sur Sartre, mais aussi sur Simone Veil, sur Simone de Beauvoir, et puis ensuite sur Platon et sur Kant. Et même des dialogues, elle réécrit deux dialogues à la mode de Platon. Cet extraordinaire recueil n'est pas traduit. Son grand livre...
C'est à vous de le faire, alors, Frédéric Worms.
Je ne peux pas tout faire, mais c'est vrai que l'article dont je vais vous dire un mot tout à l'heure, si vous êtes d'accord, qui s'appelle justement « Existentialists and Mystics », celui-là, j'ai... En le relisant pour l'émission, j'ai irrésistiblement envie de le traduire. Et je pense que c'est un scandale qu'il ne le soit pas encore. Peut-être d'ailleurs que je me trompe et qu'il l'a été, mais je ne crois pas.
Mais ce qui est intéressant, Frédéric Worms, dans ce que vous dites, c'est que là, on commence à connaître Iris Murdoch parce qu'on a eu cette volonté de féminiser les programmes de philosophie.
Il me semble, hein, c'est très réducteur, mais en tout cas...
Mais c'est vrai que le féminisme, si on va en parler cette semaine, si ça peut être un trait de son œuvre, n'est pas l'essentiel de sa pensée. On ne pourrait pas dire d'Iris Murdoch qu'elle est la Simone de Beauvoir anglo-saxonne.
Non, tout à fait. Ce qui l'intéresse chez Simone de Beauvoir et chez Simone Veil, qu'elle connaît parfaitement, et elle est plus proche de l'autre Simone, de Simone Veil, sa contemporaine, hein, qui est morte d'ailleurs en Angleterre en 1943, c'est pas parce qu'elles sont des femmes, c'est parce qu'elles sont elles ont des œuvres existentielles d'après elles, surtout Simone de Beauvoir, un peu différente pour Simone Veil. Et en effet, elle n'est pas forcément féministe au sens d'aujourd'hui, mais c'est vrai malgré tout qu'elles ont eu à se battre, comme femmes, pour s'imposer dans leur milieu, dans leur monde, sous l'ombre de Wittgenstein, elle dit « under the shadow of Wittgenstein », et puis dans la France des années 40-50, où les femmes quand même avaient une place assez forte malgré tout.
Si vous deviez présenter à quelqu'un très rapidement Iris Murdoch, le choc que vous avez eu en la lisant, vous feriez comment? Vous insisteriez sur quelle idée?
Dans l'expérience de ces romans, j'insisterais sur l'intensité, c'est tout bête, hein, l'intensité des drames personnels. La façon dont les personnages qu'elle décrit, et aussi sur un certain nombre de figures récurrentes dans tous les romans. Donc il y a au fond... On peut lire n'importe quel roman. Moi, je conseillerais de commencer par La mer, qui dans les années 70 a eu un prix, je ne sais plus.
Le Booker Prize en 78.
Mais ça vaut pour tous ces romans. C'est au fond des romans qui présentent des tragédies personnelles avec un espoir de rédemption, toujours un espoir de salut, des épreuves amoureuses, des épreuves sociales, surtout des épreuves très profondes morales en fait. Mmh. Et des épreuves morales très profondes qui ébranlent les personnages et le lecteur, et c'est et avec des chocs narratifs. Un vrai art de la narration, une sorte de merveille de la description, des adjectifs extraordinaires, des expériences de la nature, des expériences philosophiques dedans, toujours. Par exemple, il y a toujours, et ça va plus loin que La nausée de Sartre, mais par exemple, dans chacun de ses romans, il y a un personnage qui soit se noie, soit manque de se noyer, en tout cas, il y a toujours une baignade. Il y a toujours aussi une expérience de la pierre, des cailloux. Dans La mer, il y a un personnage qui meurt, hein, qui se noie. Et son mari, John Bailey, raconte dans son Élégie pour Iris, qui est le texte après sa mort, elle a eu la maladie d'Alzheimer. Le dernier roman, Jackson's Dilemma, est un roman déjà un peu lacunaire, troué par la perte de la mémoire. C'est un roman merveilleux, un peu sombre. Mais il racontait que partout où elle allait, même à Paris, elle se baignait. Elle cherchait la rivière, l'eau, la mer, un endroit parfois dangereux. Et elle faisait une expérience de la nature, une expérience de l'amour, une expérience de la beauté. Je pense que c'est des expériences très simples, très profondes, avec une théorie très subtile derrière, mais des expériences très profondes. Et c'est de cela que je lui suis reconnaissant. Et pour moi, c'est vraiment faire l'épreuve de ce qui constitue la vie humaine, des relations entre les humains, dans l'épaisseur de la littérature, avec toutes les grandes expériences philosophiques dedans. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'expérience de l'absolu dans la vie humaine.
Je ne peux pas dire que je me sente allégé ni content. Au contraire, ça m'écrase. Seulement, mon but est atteint. Je sais ce que je voulais savoir. Tout ce qui m'est arrivé depuis le mois de janvier, je l'ai compris. La nausée ne m'a pas quitté et je ne crois pas qu'elle me quittera de sitôt. Mais je ne la subis plus. Ce n'est plus une maladie ni une quinte passagère. C'est moi. Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et avec eux la signification des choses, leur mode d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute, et qui me faisait peur. Et puis j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire « exister ». J'étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux « la mer est verte, ce point blanc là-haut, c'est une mouette ». Mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une mouette existante. À l'ordinaire, l'existence se cache. Et puis voilà, tout d'un coup c'était là. C'était clair comme le jour. L'existence s'était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. C'était la pâte même des choses. Cette racine était pétrie dans de l'existence. Ou plutôt la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles en désordre, nues, d'une effrayante et obscène nudité.
Extrait de La nausée de Jean-Paul Sartre, il faut peut-être le dire, Frédéric Worms. Iris Murdoch semblait s'être un petit peu éloignée de la philosophie. Après ses études à Oxford, elle avait travaillé au Trésor de Londres, puis aux Nations Unies. Et tout à coup, En 1945, elle découvre l'être et le néant et elle rencontre Sartre à Bruxelles. Elle en parle comme si elle voyait une star, tellement la foule acclame Sartre à ce moment-là. Et elle lit aussi La Nausée, c'est un véritable choc pour elle. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Sartre et à l'existentialisme de Sartre que Iris Murdoch a décidé vraiment de faire œuvre de philosophe écrivaine ?
Je pense que dans... Elle explique très bien, il y a deux préfaces à son livre sur Sartre. Il y en a une sur le moment, en 1953, où elle décrit plutôt ce qu'elle veut faire dans ce livre, pourquoi Sartre est un philosophe important dans l'immédiate après-guerre. Elle explique aussi, au fond, comment il donne une orientation au sortir de la guerre, au sortir de la dévastation. Sartre, avec sa philosophie de la liberté, et avec sa critique aussi de la réduction de l'homme à une chose... C'est ça, Sartre, c'est la rencontre de deux existences, l'existence brute du monde, c'est l'être, et le néant de la liberté, qui est une liberté absolue, irréductible. Et elle explique très bien comment cette thèse philosophique donne une nouvelle orientation après la guerre qui a réifié les humains au point de les exterminer, la guerre qui a méconnu la liberté tout à coup et qui semble avoir tout détruit. Au fond, eh bien Sartre redonne un sens possible sur le fond de cette destruction. Voilà d'où venait le massacre, c'était de la réduction des hommes à des choses, et la liberté reprend ses droits, même si certains ont pu reprocher à Sartre de ne pas avoir fait usage de cette liberté entièrement dans la guerre, ce qui est d'ailleurs en partie faux, il s'est lui-même engagé, mais ce n'est pas le sujet. En fait, elle découvre donc... Elle découvre tout de suite pourquoi Sartre est devenu une rockstar. Et c'est vrai qu'elle décrit très bien dans sa deuxième préface comment à Bruxelles en 1945 ou un peu après, au temps où Sartre prononce sa célèbre conférence aussi à Paris, l'existentialisme est un humanisme, elle découvre qu'il est une rockstar. Ça surprend tout le monde. L'être et le néant est paru en 43, en pleine guerre. C'est un pavé, un essai d'ontologie phénoménologique. On dit que l'époque, les bouchers, pour peser un kilo de viande, prenaient l'être et le néant, parce que ça pesait pile un kilo. C'est quand même un gros pavé. Et c'est très technique, c'est très compliqué. Pourquoi est-ce que ça a été un best-seller ? Ben, Iris Murdoch le comprend tout de suite. C'est pour cette raison. C'est parce qu'il redonne un sens à la vie humaine. Et ce sens la ramène vers son premier roman, le premier roman de Sartre, en effet, La Nausée, de 38. C'est pas le seul, hein. Il y en a eu d'autres après qu'elle va critiquer. Et dans La Nausée, elle trouve en effet cette expérience métaphysique des deux formes de l'existence, le sujet humain, la chose brute, le marronnier dans le texte qu'on vient de lire, la racine du marronnier, d'entendre. Et d'un autre côté, elle, c'est le galet aussi. Roquentin, le personnage, non seulement il est pétrifié devant cette racine de marronnier brute, qui est la chose, et il est aussi devant un galet, sur la plage, mais ce gars-là, il le prend, il le lance, c'est la liberté.
Alors, cet extrait de cette deuxième introduction qui date de 1987, où elle parle de Sartre, c'est celle-ci. Elle dit « Il n'est pas courant que les philosophes soient des idoles populaires et que les livres de philosophie deviennent des guides de vie du vivant même de leur auteur. L'existentialisme de Sartre, c'était la religion nouvelle, le salut nouveau. Telle était l'atmosphère en 1945 à Bruxelles, lorsque je lus pour la première fois l'être les noms et que brièvement je rencontrais Sartre. Sa présence en ville était comparable à celle d'une star. » Mais tout de suite, elle nous dit, Iris Murdoch, qu'il y a peut-être aussi un malentendu sur ce succès de Sartre. Elle voit qu'il offre effectivement une liberté au sujet, à l'individu. Elle dit, elle aussi, que certains élans de son œuvre sont passés peut-être inaperçus. De quoi parle-t-elle ?
On voit bien que ce qui l'intéresse, et c'est pour ça que vous avez très bien choisi l'extrait de La Nausée que vous avez fait lire et qu'on a entendu, cette sidération devant la racine du marronnier, la chose brute, qui est aussi devant le galet, devant la mer qui n'est pas seulement un décor, comme pour les bourgeois qui se promènent, hein, dans cette phrase qui a été lue « Avant, j'étais comme les autres », dit Roquentin, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Donc là, au fond, c'est la parade sociale, l'être qui se nie lui-même comme liberté, qui ne voit pas la chose pour elle-même, mais qui joue un rôle social, comme le garçon de café qui joue à être garçon de café, le bourgeois du Havre, hein, que Sartre critique dans La Nausée. Eh bien, la mer, elle reprend très bien ces images de la nausée. La mer, c'est pas seulement un décor vert pour un peintre ou pour des salons bourgeois. C'est une chose gluante dans laquelle il passe des étranges personnages qui sont des poissons dans le fond. C'est opaque, c'est sombre, c'est visqueux dans la nausée. Le galet, on ne sait pas quoi en faire. La racine résiste. Au fond, l'expérience métaphysique brute que décrit Sartre, c'est ça qui intéresse Iris Murdoch. La découverte du monde, la question du sens de ce monde. Et ce qu'elle reproche à Sartre, c'est d'avoir perçu ça, d'avoir perçu l'absolu de la liberté aussi face à ça. Et au lieu de décrire ce combat, elle pense que peu à peu, sauf dans la nausée, dont elle dit que c'est un chef-d'œuvre de jeune homme, elle dit que dans Les Chemins de la Liberté, la série de quatre romans de Sartre pendant la guerre et sur la guerre, c'est devenu des romans à thèse, comment la liberté se construit entre les communistes, les autres résistants. Ça devient des romans à idées, en fait. Alors que Sartre aurait pu faire l'épreuve de la métaphysique dans l'existence humaine, il est devenu un idéologue dans le roman. Et du coup, ça va la pousser vers une autre philosophie et vers un autre roman. Mais Sartre est son point de départ. Sartre lance la barque. Il y a une impulsion qu'elle trouve chez Sartre qui va au-delà de Sartre.
Alors, dans le texte qu'on a entendu de la nausée, Frédéric Worms, il y a trois idées sur lesquelles va s'appuyer Iris Murdoch. Il y a effectivement cette découverte métaphysique par Roquentin de l'existence. Il faudrait déjà, en fait, se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire l'existence, parce qu'il prend conscience de l'existence des choses, mais il prend aussi conscience de sa propre existence. Il y a aussi cette idée, et ça va être le cœur de son essai qu'elle consacre à Sartre, c'est son premier en 1953, s'appelle Sartre, un rationaliste romantique, la question du langage. Dans ce texte, on l'a entendu, Roquentin dit « ça m'a coupé le souffle, jamais avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister ». Ce sont bien deux choses différentes, la découverte et le fait de le dire. Et enfin, vous en avez parlé, Frédéric Worms, cette idée quand même de la pâte, du visqueux, de la mollesse, du monstrueux. Pourquoi Iris Murdoch fait-elle une lecture, on va s'arrêter d'abord là-dessus, sur le langage? Est-ce que cette découverte métaphysique de l'existence est d'abord un problème de langage plus que d'observation?
En fait, le point où elle fait se rencontrer d'une manière sidérante, elle est la seule à le faire à l'époque et même encore aujourd'hui, où elle fait se rencontrer Sartre et Wittgenstein, qui est un philosophe...
Qu'elle a rencontré aussi.
Et dont elle a été l'élève, la disciple. Elle a été, comme les trois autres du quartet, elle a été sous son ombre. Elle est très profondément marquée par Wittgenstein. Le point commun, c'est plutôt que l'existence est au-delà du langage. Que l'existence est un fait brut. Alors évidemment, Sartre et Wittgenstein ne le disent pas exactement de la même façon. Wittgenstein est un philosophe du langage, mais qui, dans le Tractatus Logico-Philosophicus, qui pour elle est le grand œuvre de Wittgenstein, je pense qu'elle est moins intéressée par la philosophie du langage ordinaire, le deuxième Wittgenstein, mais par le premier. Wittgenstein dit, voilà, le langage dit le monde. Il est plutôt scientifique, objectif, logique, mais... Au-delà de ce qu'on peut dire, il y a un mystère. Et le mystère, l'éthique, commence au-delà de ce que le langage peut dire. Il y a donc une limite du langage. Or, cette limite du langage, c'est l'existence dans ce qu'elle est de plus profond. Le langage peut dire le monde, mais il ne peut pas dire notre manière de ressentir le monde. Et ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire, dit Wittgenstein. Et au fond, tout Iris Murdoch, c'est d'essayer de dire ce qu'on ne peut pas dire. Dire les émotions profondes de la vie humaine, dire ce qui va au-delà de la description des faits. Et pour Sartre, au fond, on peut dire c'est un peu pareil. L'existence, il n'y a pas grand-chose à en dire. Dès que le philosophe réfléchit sur l'existence, il en fait une théorie, il la ramène à une essence. Or, quand Sartre dit « l'existence précède l'essence », qui est la phrase de « l'existentialisme est un humanisme », ça veut dire « le fait brut des choses et le fait de ma liberté ». Sont des absolus, il n'y a rien à chercher derrière. La racine du marronnier, le galet sur la plage, il n'y a rien à chercher derrière. Les philosophes ont toujours cherché du sens, ont toujours cherché une essence de la matière, une essence de l'âme, une essence de la liberté. Non, il y a le fait brut des choses, devant lesquelles il y a le fait brut de ma liberté. Et ces faits bruts n'ont pas de sens au-delà de leur facticité, comme on disait à l'époque, au-delà de leur donation.
On ne dit plus facticité, ça
non,
se dit
c'est
plus.
Un terme un peu. C'était un terme technique pour dire la réalité, l'existence brute, ce que Camus lui appelait l'absurde. L'absurde, c'est très proche. C'est pour ça qu'on a aussi, elle a lu Camus aussi, Iris Murdoch. Hein. Camus, c'est le philosophe aussi de l'absurde, c'est-à-dire l'existence est donnée mais n'a pas de sens et la liberté humaine est dans une demande de sens et dans, doit reconnaître qu'il n'y a pas de réponse à cette demande et pourtant affirmer l'absurde. Donc au fond, que ce soit l'absurde de Camus, la facticité quand même, disons, des phénoménologues, ou bien l'existence selon Sartre, leur point commun, c'est qu'il y a un fait brut devant lequel le langage peut le décrire, mais doit renoncer à chercher une réponse théorique au-delà de cette existence. Alors au-delà de cette réponse théorique, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a le drame de la vie humaine dans cette existé, ce double existé des choses et des êtres humains, des êtres libres. Et puis après, Simone Weil, dans son chemin, passera de Kant, de Wittgenstein et Sartre à Platon. Elle verra dans l'épreuve de la souffrance aussi une ouverture vers le bien.
Donc c'est en lisant Simone Weil qu'Iris Murdoch finalement va faire ce chemin entre Sartre, Wittgenstein, puis Simone Weil, et donc passer en fait de l'existence, on pourrait dire, à une manière d'être.
Il y a quelque chose surtout qui lui manque, je pense, chez Sartre et peut-être même chez Wittgenstein, c'est l'alternative du malheur et du bien. Et au fond, ça manque en un sens, selon elle, quand ça manque, ça, c'est quelque chose, on manque quelque chose de la vie humaine. Et elle dit, il y a deux sortes de romans. Et dans le grand texte qui s'appelle L'existentialiste et mystique, elle dit, il y a un roman existentiel qui est le roman de la liberté, l'aventure. Et c'est le roman moderne aussi depuis le 19e siècle. Et peut-être que c'est un des grands chemins du roman depuis l'Odyssée d'Homère aussi, hein, l'aventure de la liberté. Les chemins de la liberté, comme dit Sartre. Mais sur le chemin de la liberté, il n'y a pas seulement le monde ou les autres comme mystère, ce qui est une grande thèse de l'existentialisme qu'elle reprend. Mais il y a aussi le bien et le mal, le malheur et l'amour. Et en fait, c'est là que Simone Weil, avec ses grands textes, Le malheur et l'amour de Dieu, qu'elle est la première à lire comme ça, l'oriente vers ce qu'elle appelle le roman mystique. Et quand elle dit qu'il y a un roman mystique, ça veut bien dire Wittgenstein avait raison. Au-delà de la science, il y a la mystique, mais Wittgenstein, par pudeur, par rigueur, dit on ne peut rien en dire. Eh ben si, il faut en dire quelque chose, parce que c'est là que se joue notre vie, et c'est dans l'amour et le malheur. Et donc, je pense que cette manière de passer de la liberté à l'amour et au bien et au mal, hein, faut pas oublier le malheur.
Quelque chose qu'on trouve peu d'ailleurs, en fait, chez Sartre.
Ben,
le
voilà,
bien,
c'est
le
ce
mal, ou d'ailleurs l'amour, on pourra en reparler, mais effectivement, les autres pour Sartre sont toujours des menaces. Elle lui reproche dans cet essai, il ne pense pas aux autres, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas d'incarnation de l'individu qui est réduit à une problématique philosophique, on pourrait presque le dire comme ça. Le garçon de café, ça va être celle de la mauvaise foi, et puis après, ses romans vont devenir presque des incarnations de problèmes. De la même manière, ses biographies, ses psychanalyses existentielles de Jean Genet, de Baudelaire, de Flaubert, il aura cette prétention, elle en parle, Iris Murdoch, de vouloir tout rassembler, de trouver l'essence, finalement, d'un homme, ce que Sartre réfutait lui-même au départ. Mais toute la question qui reste à se poser, Frédéric Worms, c'est comment on continue à parler sans réduire les individus à de pures idées, surtout quand on a un regard de philosophe comme celui d'Iris Murdoch.
C'est exactement ce qu'elle reproche à Sartre dans ce livre qui est quand même extraordinaire parce qu'elle lui rend hommage et elle le critique. Et c'est sur le fond de cet hommage et de cette critique qu'elle se construit elle-même comme philosophe et comme romancière. Et donc c'est quand même une base de départ très profonde et je pense très juste. Hein, et elle ne minimise pas l'importance de Sartre pour autant parce que autant il faut restituer le drame humain, le malheur, l'amour, les relations très profondes et Sartre... En effet, les écrase un peu sous des idées générales selon elle, même si Sartre le retrouve peut-être. On dit que Sartre a toujours cherché une morale. Hein. La dernière phrase du pavé de 43, c'est « Il faut maintenant une morale, ce sera l'objet de notre prochain livre ». Et il n'est jamais venu, ce livre, d'après les 750 pages. Sauf qu'il y a eu quand même des cahiers pour une morale et certains livres, notamment sur la négritude ou sur la question juive, qui portent en eux l'indignation morale de Sartre, qui ensuite est prise par la politique. Donc la morale est un peu passée à la trappe, mais est bien présente entre métaphysique et politique chez Sartre, et elle le lui reproche. Mais inversement, on peut dire que, pour elle, le bien et le mal, le malheur et l'amour... ne sont rien sans la liberté humaine, sans l'épreuve obscure de cette liberté humaine qui tâtonne dans un monde fait de racines mystérieuses, d'une mer opaque, de cailloux dangereux. Il y a des dangers, il y a des épreuves, les autres sont des mystères. Donc l'existentialisme va rester. Dans mystique, il y a vérité, mais il y a aussi mystère. Et le mystère, c'est ce qui vient de cette opacité du monde, de la liberté de l'autre. L'autre est un mystère. Il n'est pas un danger seulement, il est aussi une source d'émerveillement et de joie, mais il est mystérieux et ma liberté est un fardeau aussi. Comme chez Sartre, je suis condamné à être libre. Je fais des choix qui vont transpercer toute ma vie, que je vais regretter pour certains, des fautes, ou au contraire, qui vont m'illuminer. Et donc, il y a quand même, pour qu'il y ait roman, il faut qu'il y ait la liberté. En fait.
Mais pas vide.
Pas vide, voilà.
Pour faire des expériences.
Exactement. Il y a deux erreurs. C'est de réduire le roman à une fable métaphysique ou à une liberté vide et idéologique. Et si on a les deux éléments, c'est-à-dire la liberté et la responsabilité et le malheur et l'amour, alors il peut vraiment se passer des choses. C'est vraiment, c'est vraiment les très grands romans ont tout ça, qu'il s'agisse de Guerre et Paix ou de George Eliot ou de Jane Austen, dont elle est aussi l'héritière. Hein. C'est toujours à la fois les épreuves de la liberté et les épreuves du bien et du mal.
Ce dont Roquentin fait l'expérience dans La Nausée, sous une forme intense, totale, c'est précisément de cette vision du monde qui a conduit les hommes à désespérer du langage, à en faire un simple jeu ou un système autosuffisant, comme une forteresse opposée au chaos. À ce dilemme, Roquentin lui-même cherche une solution littéraire. Mais il ne cherche à s'approprier et à canaliser par là que la forme de sa propre vie. Roquentin n'est pas Sartre, ou du moins n'est qu'un aspect du jeune Sartre immature. D'intuition politique, Roquentin n'en a que de destructrice et négative. Il a bien conscience que les mots peuvent masquer et justifier la violence et le désordre, mais il ne se rend pas compte que ses attitudes, désespérées des mots ou leur vouer un culte exclusif, risquent de le faire tout autant. Ou plutôt, s'il voit ce qu'ont d'absurde certains des efforts pour surmonter le chaos, il n'a aucune foi dans aucun salut, sinon celui de sa petite personne telle qu'il l'envisage à la fin du livre. Ce que La Nausée présente comme une découverte métaphysique, Sartre l'analysera ailleurs comme une maladie dont les causes et les remèdes seront politiques. Le problème est le même. Trouver une troisième voie qui ne soit ni la pétrification du langage, ni sa dégringolade dans le non-sens, qui ne soit ni la mauvaise foi des salauds, ni un chaos spirituel, ne soit une adhésion ni aux normes du totalitarisme, capitaliste aussi bien que communiste, ni au cynisme en politique.
Extrait du premier essai d'Iris Murdoch, Sartre, un rationaliste romantique, paru en 1953, c'est la première édition, lue par Philippine de Bellois. Déjà une première question, Frédéric Worms, ce titre m'a toujours fascinée. J'avais ce livre dans ma bibliothèque sans jamais l'avoir lu. Je n'ai jamais compris ce titre. Pour moi, Sartre, c'est un existentialiste, peut-être romantique. Pourquoi rationaliste ?
C'est très juste, c'est la seule, c'est d'une audace incroyable. Hein. Elle est donc au plaqueur de la vague existentialiste qui a mis cette étiquette à Sartre. Et voilà qu'elle, elle le qualifie en sous-titre de son livre, un rationaliste romantique. Au fond, ce qu'elle veut dire par là, elle veut justifier la philosophie de Sartre face à ceux qui la réduisent justement à l'absurde, au non-sens, à l'acceptation du donné des choses et d'une liberté sans contenu. Elle dit en fait c'est un rationaliste. Pourquoi ? Parce que chez lui, la liberté, elle a raison. C'est la liberté de la pensée, c'est la liberté du cogito cartésien. Sartre écrit un grand texte en 1947, qui est juste après la guerre dans une collection Les Penseurs français, sur la liberté cartésienne. La liberté chez Sartre, c'est quand même la liberté de la conscience, de la conscience de la pensée, qui est la liberté de dire oui ou non, de n'accepter que les critères de la raison, les critères de les lumières de la vérité pour s'orienter dans le monde. Donc c'est une liberté absolue. Le point commun entre Descartes et Sartre. Sartre dit de Descartes qu'il est d'abord un penseur de la liberté et que chaque liberté choisit son objet. Descartes a choisi la science. Sartre va, donc chez Descartes, la vérité de la liberté, c'est la connaissance. Et chez lui, ça va être plutôt l'engagement, en effet, dans le monde et bientôt l'engagement politique. Et du coup, cette liberté sartrienne est une liberté beaucoup plus pure et un peu dangereuse que chez Descartes. Chez Descartes, la liberté, c'est la liberté pour la vérité. Je peux dire oui ou non à tout, c'est la puissance de la liberté chez Descartes lui-même. Mais en fait, je vais dire oui à 2 et 2 font 4, même si je peux douter que 2 et 2 fassent 4 dans l'expérience du doute. Il y a des raisons qui vont remplir la liberté. Or, Sartre, qui est quand même rationaliste par cette affirmation de la liberté et de la raison universelle, c'est aussi un universaliste. Vous ne pouvez pas réduire un humain, quel qu'il soit, à une chose à cause de la pensée et de la liberté. Eh bien, il est aussi romantique, parce que cette liberté n'a pas de sens, ne pourra pas trouver de satisfaction, que la fusion rêvée de la liberté avec l'être n'aura pas lieu. Nous sommes condamnés à la liberté, mais l'homme est une passion inutile, dit l'être et le néant. C'est une passion de la vérité qui sera toujours déçue. La liberté est toujours reconduite au-delà. L'amour ne trouve jamais à se satisfaire. Il dit aussi dans l'être et le néant, la haine aussi est un échec. Nous cherchons toujours à devenir chose, nous n'y arrivons jamais. Donc c'est un romantique. C'est une liberté absolue, rationnelle, universelle, mais qui échoue.
Désespérée.
Un rationalisme désespéré. Et elle est la seule à voir cette dualité très profonde, qui pour elle est la vérité de Sartre, qui fait qu'il dépasse même ses propres erreurs. Là, on est en 53, donc elle lui rend hommage de son irréductibilité. Sartre, c'est un irréductible au totalitarisme, au cynisme en politique. C'est la dignité de la liberté humaine après la guerre. Ça va au-delà même de ses erreurs, dit-elle, qui ont suivi. Mais en même temps, l'erreur qu'elle lui reproche vraiment, c'est au fond de n'avoir pas vu qu'au-delà du rationalisme et du romantisme, il y a ce qu'elle appelle le mysticisme, plutôt la morale, tout simplement. La métaphysique doit être un guide pour la morale.
Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par morale? Parce que ce premier essai d'Iris Murdoch, il est intéressant parce qu'en fait, Sartre en est vraiment son angle, on pourrait dire son sujet. Elle travaille dessus vraiment, elle le lit dans les détails. Parfois, il est un peu compliqué, même dans sa construction, ce premier essai. Mais elle n'y affirme rien encore de ce qu'elle pourrait, elle, vouloir faire. On sent que tout ce qu'elle critique de Sartre, c'est ce qu'elle aimerait ne pas faire. Mais véritablement, elle ne dit pas encore de quoi elle serait fait un bon roman, par exemple, existentialiste. Là, dans cet extrait qu'on a entendu, elle parle d'alternative. Il faut trouver une troisième voie du langage. Ni pétrification, ni dégringolade, ni mauvaise foi, ni chaos spirituel. Alors c'est quoi cette troisième voie, Frédéric Worms? Si elle ne la dit pas encore ici, comment va-t-elle la développer ou qu'est-ce qu'on peut déjà en percevoir?
Mais c'est déjà extraordinaire de poser le problème. En 53...
Ouais. Bah, quand on est philosophe, c'est d'ailleurs ce qu'on aime le
voilà,
faire le plus.
Ce que fait le philosophe, c'est d'abord créer le problème, c'est déjà presque avoir la solution. Et de fait, après, on a l'impression que son œuvre, aussi géniale et différente soit-elle à chaque fois, est tout entière déjà là. C'est extraordinaire parce qu'en 53, les choses circulent, elle est venue à Paris, à Bruxelles, puis à Paris. Au fond, elle dit la vérité de ce qui se passe à Saint-Germain-des-Prés, mieux qu'on ne la réduit parfois, qu'on cherche à la réduire dans certains clichés parisiens de Sartre, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Camus, les mandarins de Simone de Beauvoir, qui d'ailleurs est un très grand roman. Simone de Beauvoir aussi était une très grande romancière. Et donc, elle dit leur problème commun. Quel est leur problème? C'est que dans la dévastation de l'après-guerre, on a une boussole désormais, mais une boussole en effet qui n'a plus de nord totalement, il y a du magnétisme, il y a le magnétisme de la liberté, mais quelle va être son orientation définitive? C'est un problème ouvert en quelque sorte, qu'elle partage avec d'autres, et je pense que déjà diagnostiquer ce problème, dire on est sorti du pire, on a fait l'épreuve du pire, mais au moins on a la liberté. Comment maintenant revenir sur ce pire? Comment trouver aussi dans l'après-guerre une boussole morale? C'est tout aussi essentiel que de retrouver la liberté. Je pense que elle a été politique avant Sartre. Elle a été militante communiste à Oxford dans sa jeunesse. Et au moment où Sartre devient politique, elle devient moraliste. C'est un chiasme assez fascinant. Et je pense que là, elle retrouve... La figure de Simone Veil est très importante. Et en même temps, quand même, si on veut comprendre l'Europe d'aujourd'hui, il faut comprendre l'Europe des années 50. Et ce qui se joue dans cette période, on ne le trouvera nulle part mieux, à mon avis, que dans cette hésitation d'Iris Murdoch, qui ensuite la conduit vers son œuvre propre, dont il faut dire un mot, et à laquelle vous allez consacrer aussi la suite de ces émissions. Mais c'est vraiment un point de départ fascinant, c'est le creuset. On a tout coupé ensuite, on a tout séparé. On a séparé morale et politique, on a séparé philosophie analytique et philosophie continentale, on a séparé existentialisme et langage, on a séparé les hommes et le monde, on a séparé les hommes et les femmes, l'amour et la haine. Non, en fait, elle unit tout ça et c'est même un moment assez unique dans l'histoire du XXe siècle, d'après moi.
Tout le paradoxe, c'est que en philosophie, notamment continentale, celle qu'on apprend ici en France, on est habitué à faire des systèmes. Or, s'intéresser au drame personnel, à l'épaisseur de l'existence humaine. À la fois, c'est ce que vous dites, Frédéric Worms, dans votre préface à cet essai d'Iris Murdoch, à la fois dans l'évidence d'une vie humaine, mais aussi dans toute son épaisseur, dans tout son mystère, c'est forcément ne pas créer de système. C'est forcément proposer une anthropologie, une philosophie de l'homme, des femmes, qui ne soit pas, on pourrait dire, systématique.
Alors, il n'y a pas de système, mais il y a des œuvres. Au début de son grand livre « La métaphysique comme guide pour la morale », donc « Métaphysique et morale », de manière très surprenante, Iris Murdoch commence par une réflexion sur l'art. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier que dans la littérature, pour elle, il y a le contenu, hein, bien sûr, il y a le contenu dramatique, il y a la pensée philosophique, et puis il y a une troisième dimension qui est très importante, qui est de faire tenir tout ça dans une œuvre, dans une forme qui est la forme du grand roman, qui pour elle est la plus haute forme de la littérature. Alors évidemment, elle parle aussi de la tragédie, du drame, elle sait parler de la peinture, de la musique, mais elle dit souvent la littérature est la plus haute forme de l'art, et l'art consiste non seulement à décrire, à reproduire, mais à construire une forme qui tient en elle, qui redonne une unité à ce qui est éclaté dans notre vie, en fait. Et donc, plutôt que le système théorique, ça va être la forme artistique. Et c'est pour ça qu'elle écrit des romans au pluriel, et que chaque roman est une totalité avec un début, un milieu, une fin, un drame, au fond, assez classique dans sa forme, mais où se joue toute l'histoire de nos vies, du XXe siècle, avec des figures mystérieuses. J'ai parlé de la mer, du danger de se noyer, mais il y a aussi toujours une sorte de figure du maître philosophique, comme dans la mer aussi, d'ailleurs, dans ce roman très curieux qui s'appelle « Un message à la planète ». Et il y a cette dimension cosmique aussi. À la fin, elle dit, d'ailleurs, elle rejoint notre moment présent qu'elle n'a pas vécu, mais elle dit, il y a le roman, elle fait une prophétie, elle dit, il y a le roman existentiel, il y a le roman mystique, et on ira vers le roman cosmique et vital, le roman qui parlera de vivre et mourir, de manger et boire. Et c'est le moment, pour moi, elle anticipe sur notre moment du vivant et de la mort, hein, de la vie et de la mort, d'une manière extraordinaire dans ce texte. Mais le point commun, c'est que les humains face à ce monde ne sont pas seulement dans la sidération philosophique, ne sont pas seulement dans l'expérience morale individuelle, ont une capacité qui est l'art. Et l'art devient chez elles la synthèse entre la métaphysique et la morale.
Ce que Sartre attend de l'art, c'est une analyse, un ordonnancement du monde, une réduction à du sens intelligible, lui-même compris comme équilibré et sans aspérité. Il faut souffrir en mesure. Voilà ce que la petite mélodie souffle à l'oreille de Roquentin. Sartre est irrité, et c'est fatal pour le romancier proprement dit, par l'épaisseur de la vie humaine. Il a bien, d'un côté, un goût très vif et même parfois légèrement morbide pour les détails de la vie contemporaine. Et il a aussi, d'un autre côté, le désir passionné d'analyser, de construire des structures intellectuellement satisfaisantes. Mais il lui manque la qualité précise qui lui permettrait d'unir ces deux traits dans l'œuvre d'un grand romancier. La compréhension de ce que les êtres et leurs relations mutuelles peuvent avoir d'absurdement et d'irréductiblement unique. Sartre semble être aveugle à la fonction de la prose, non pas comme un acte utile ou un outil analytique, mais comme création d'une image complète et inclassable. Il n'est poussé vers la parole que par des intérêts pratiques. Son incapacité à écrire un grand roman est un symptôme tragique de la situation dont nous souffrons tous. Nous savons que la seule leçon qui vaille porte sur le caractère précieux et unique de la personne humaine. Mais tout se passe comme si nous ne parvenions plus à la mettre en œuvre, sinon à travers le filtre de l'idéologie et de l'abstraction.
Transition parfaite, Frédéric Worms, avec ce que vous disiez.
Incroyable.
Un extrait toujours de Sartre, un rationaliste romantique de Murdoch, d'Iris Murdoch, son premier essai. C'est un extrait du dernier chapitre, du chapitre 10, qui s'intitule « Actes linguistiques et objets linguistiques ». Et cette dernière phrase où elle dit, où vraiment elle ouvre en fait ce problème, non pas seulement au problème, on pourrait dire, de l'écrivain ou de l'intellectuel, mais vraiment à tous, elle dit... Elle parle d'un symptôme tragique de la situation dont nous souffrons tous. Nous savons que la seule leçon qui vaille porte sur le caractère précieux et unique de la personne humaine. Mais tout se passe comme si nous ne parvenions plus à la mettre en œuvre, sinon à travers le filtre de l'idéologie et de l'abstraction. Je trouve cette phrase incroyable, Frédéric Worms.
Alors effectivement, c'est sidérant. Et il faut prendre au pied de la lettre cette expression. Je ne me souviens plus de l'anglais, hein. Pourtant je l'avais traduite, mais ça fait déjà un petit moment. Nous ne parvenons plus à la mettre en œuvre. Ça veut dire qu'au fond, ce qu'elle reproche à Sartre, et elle est quand même très sévère, et c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a un éditeur d'Oxford dans une collection pour débutants. Hein, c'est une collection, voilà, un peu comme il y en a aussi en France, des présentations des penseurs. Donc elle fait un Sartre, quoi, pour présenter Sartre aux Anglais, en fait, aux étudiants, aux lycéens, aux lecteurs, et elle se permet une critique personnelle très, très brutale. Elle dit, au fond, voilà, ce qui a manqué, son incapacité à écrire un grand roman est un symptôme tragique de la situation dont nous souffrons tous. Donc elle dit, Sartre a échoué. Il a échoué pourquoi ? Il a compris de quoi l'art devait témoigner, de quoi les œuvres d'art devaient rendre compte, à quoi l'œuvre d'art devait donner forme. Il a compris le contenu, mais il n'a pas réussi parce que il a réduit l'art à une fonction idéologique. C'est les premières phrases du passage que vous avez découpées. Et donc, la fin, le filtre de l'idéologie et de l'abstraction, ce que vous venez de relire. Et donc, voilà, au lieu de rendre compte de l'épaisseur de la vie humaine, il a réduit le roman à un message. Et d'ailleurs, je pense qu'elle a dû détester le livre de 48 de Sartre, « Qu'est-ce que la littérature ?» Parce que la littérature, pour lui, c'est avant tout un message sur la liberté humaine. Et Sartre, du coup, ne parle pas de la littérature comme forme, comme travail esthétique, artistique, proprement dit. C'est d'abord un message pour les humains, un message de liberté, de telle sorte d'ailleurs que Sartre condamne la poésie. La poésie, pour lui, n'est presque pas de la littérature. C'est un jeu formel sur le langage, surtout dans le surréalisme, et qui, perdant un message, ne devient pas philosophique ou politique. Et quand il a rencontré la poésie de la négritude, la poésie d'Aimé Césaire et de Léopold Senghor, Sartre a été très surpris parce que c'est une poésie à la fois belle et politique, à la fois humaine, artistique, mystique et politique. Et il a été obligé de voir que l'art, voilà, donc il l'a reconnu d'ailleurs, hein. Mais c'est cette image complète de l'art. Qui par le biais du sensible, de la beauté aussi, et même pour décrire l'horreur, c'est par le biais de cet art complet du romancier qu'elle pense dépasser Sartre.
Mais comment fait-on, Frédéric Worms, pour rendre compte de l'épaisseur de la vie humaine ?
On la raconte. On la raconte en la faisant revivre à travers des expériences relationnelles qui font qu'on est sidéré. Dans La mère, par exemple, le personnage principal qui s'est retiré dans une maison après une grande carrière de critique dramatique. Tous les artistes dramatiques de Londres le craignent. Il est aimé de plusieurs femmes extraordinaires, etc. Tout à coup, il a un drame caché. Il a été abandonné par son amour de jeunesse. Et tout à coup, dans cette station balnéaire improbable où il a acheté un manoir quasiment hanté en bord de falaise, il a une hallucination, il voit une vieille dame se promener et il dit c'est elle, c'est l'amour de jeunesse. Et en effet, c'est elle. Elle s'est remariée, il s'est passé des choses étranges et terribles dans sa vie. Il croit que ça va se reprendre, en fait, je veux pas spoiler, comme on dit, cet extraordinaire roman, comme tous les romans d'Iris Murdoch, mais voilà, donc... On résume, et déjà on est un peu transi, on est saisi. Il y a aussi ce roman extraordinaire sur la Révolution irlandaise, hein. Le printemps, sur le printemps irlandais, Pâques sanglante, hein. Et puis A Severed Head, la tête coupée. Enfin, il y en a, chaque roman a, en fait, raconté à la fois avec les trouées du drame, de l'amour soudain, du deuil imprévu, du choc de la circonstance. Elle décrit très bien aussi comment dans le grand roman, le hasard fait les grandes rencontres. C'est ce que Sartre n'a jamais voulu. Sartre programmait ses romans. Mais elle dit dans Jane Austen, dans George Eliot, dans les grands romans et dans Tolstoï, dans une soirée, par hasard, deux regards se croisent. Et c'est fini. Dans Stendhal, c'est comme ça aussi. Mais c'est un hasard mis en forme par l'œuvre d'art qui est une totalité où apparaissent tous les drames.
Et d'un point de vue même de l'écriture, ou on pourrait même dire du langage ordinaire, Frédéric Worms, quand elle dit que c'est un symptôme dont nous souffrons tous, ça veut dire que même dans nos conversations, par exemple, on ne parvient pas à dire ce qu'il y a, je la cite, d'absurdement et d'irréductiblement unique en nous.
De ce point de vue, elle est proche de Wittgenstein et aussi de Merleau-Ponty, hein, dont elle est contemporaine et proche. Dites-moi comment les hommes parlent et je vous dirai comment va le monde. en un sens. Et en fait, quand on parle mal, Camus aussi a des phrases célèbres là-dessus, qu'il ne faut pas toujours répéter, mais qui sont quand même vraies. Mal parler ou mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Elle le pense profondément. Les humains doivent pouvoir bien dire, même le mal, pour accéder au bien.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, bien dire?
Bien dire, c'est être juste, décrire de façon juste les émotions humaines, ne pas plaquer dessus des mots, des adjectifs trop généraux, des adverbes qui n'ont pas de sens, décrire l'expérience d'un tel, d'une telle, et pas les normer a priori par des catégories générales. Et ça, vraiment, je pense que c'est le cas chez elle. Moi, j'attends une belle étude du style de Iris Murdoch, c'est encore à venir, j'en ai pas lu. Il y a, heureusement, en Angleterre, des Murdoch Studies. Mm-hmm. Il y a même une Murdoch Review. Il faut les découvrir. Voilà, le fait qu'elle soit au programme du bac en France, qu'on la relise aujourd'hui, qu'on attende encore des traductions, on doit se plonger dans son œuvre et dans son style. Moi, j'ai été fasciné par son usage des adjectifs, par exemple.
Ouais, pareil, expliquez-nous, racontez-nous.
J'aimerais beaucoup vous prendre des exemples, mais j'en ai pas préparé. Mais quand elle décrit, par exemple, une robe, elle décrit extrêmement bien les habits de ses personnages ou la couleur de la mer. Parfois, il y a 6 ou 7 adjectifs avant le substantif. Mais 6 ou 7, c'est le bleu émouvant, tragique, tendu, vertigineux de cette... Voilà. Et ça crée une sorte de style très particulier qui montre un effort, qui montre que la vérité n'est pas donnée, qu'elle se recherche et que l'outil pour les humains de cette recherche, c'est le langage. Donc il y a un travail sensible, sensible aux deux sens du mot, un travail de la sensibilité et un travail sensible au lecteur. Mmh. Ce qui fait que le drame est là, mais la recherche de son sens suppose un travail de l'auteur et du lecteur.
Nous allons écouter, pour finir cette émission, Frédéric Worms, et on aura quand même quelques minutes pour l'évoquer, la voix d'Iris Murdoch.
I feel in myself such an absolute horror of putting theories as such into a book.
Je frissonne d'horreur à l'idée d'introduire telle quelle une idée théorique dans un roman. Je veux dire, je mets des idées philosophiques dans mes livres parce qu'il se trouve que je connais la philosophie. Si je m'y connaissais en bateau à voile, j'y mettrais des bateaux. Pareil si je connaissais les hôpitaux. Which is Sartre's La Nausée, which I do admire very much. Je ne peux penser qu'à un bon roman philosophique, La Nausée de Sartre, que j'aime beaucoup et qui démontre quelque chose sur la contingence.
It's a philosophical subject, which is very close to the novelist's art. I mean, there's a kind of a good marriage there, as it were, between the novelist's art and the.
C'est un sujet philosophique qui est proche de l'art du roman. C'est un bon mariage entre la littérature et le sujet.
I think existentialism may be a something of a special case here because it.
Je pense que l'existentialisme est un cas à part parce que c'est une philosophie assez littéraire. Mais on peut voir que ce n'est pas facile quand on lit d'autres livres de Sartre et de Beauvoir, parce que quand la voix de l'existentialisme se fait entendre, l'œuvre d'art est rigidifiée. C'est une chance qu'il s'en soit sorti avec La Nausée.
Archives d'Iris Murdoch en 1977 sur la BBC. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'une manière aussi de rendre compte de ce côté, de cette dimension irréductible de l'être humain, de son caractère précieux, unique, c'est aussi par l'humour. C'est-à-dire que le langage est sans cesse amendé par l'autodérision, l'ironie et autres traits humoristiques.
Exactement, l'humour, l'ironie, le tragique aussi, tout ce qui nous fait percer un langage faussement objectif pour arriver vers le drame subjectif qu'on ne peut pas dire, sinon indirectement. C'est son côté aussi existentialiste, c'est-à-dire Kierkegaardien. Hein. Kierkegaard, c'est la communication indirecte. L'indirect est la seule façon de dire le subjectif. Parce que si vous parlez du subjectif en le décrivant, bah vous l'objectivez. Donc il faut toujours de l'indirect. Et en effet, l'ironie, l'humour, là on l'entend.
Hein, bah voilà, c'est pour
la
ça
voix extraordinaire
cette
d'Iris Murdoch. C'est, où elle surtout, dit, ouais, je mets un peu de philosophie parce que j'en connais un peu. Hein, si j'étais spécialiste des bateaux, je mettrais des bateaux.
Voilà, ou même quand elle dit Sartre, bah c'est une chance qu'il ait écrit La Nausée, parce qu'après, on comprend bien qu'elle le critique. Hein, on en a parlé tout au long de cette émission, mais là c'est presque une chance. Quoi.
C'est étonnant. C'est pour elle, c'est l'homme d'un livre, en fait, même si elle admire beaucoup L'être et le néant, mais c'est dans La Nausée qu'il a réussi une fois cette rencontre du roman et de la philosophie qui, pour elle, est l'essentiel. On peut dire aussi qu'elle est proche de Proust. Hein, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est très proche de la phrase célèbre de Marcel Proust qui dit quand je vois une théorie philosophique dans un roman, c'est comme un cadeau sur lequel on aurait laissé le prix. C'est-à-dire que
non, moi, je la connaissais pas, cette phrase.
C'est quand même, voilà, c'est un peu lourd, quoi. En gros, vous dites, attention, philosophie. Et elle, c'est pas du tout ça. Les philosophes, dans ses romans, comme dans L'élève du philosophe, qui est un roman extraordinaire qui se passe dans une ville d'eau, évidemment, parce qu'il y a toujours de l'eau et de la pierre, hein, eh bien, ce philosophe, il va très mal, il est très tourmenté. Donc, il y a des maîtres de pensée, des maîtres penseurs, en un sens, mais ils souffrent. Ils souffrent, ils aiment et ils trahissent. Ils sont aussi méchants, hein. Il y a de la cruauté. Voilà, donc ce sont des relations maître-élève qui sont aussi très, très humaines, comme elle les a vécues, on le voit dans le Quatuor. Je pense qu'on pourrait lui reprocher aussi d'avoir toujours décrit dans ses romans le même milieu. Quand on lit le livre récent sur le Quatuor d'Oxford, on comprend qu'en effet, dans ses romans, elle a aussi traduit la vie des intellectuels anglais du milieu du XXe siècle. Mais là-dedans, c'est comme dans Proust. Pour moi, elle est pas loin de la recherche du temps perdu, vraiment pas loin, même en intensité.
Ben voilà, ça, on peut c'est reprocher une sacrée déclaration,
ouais,
Frédéric Worms.
Je pense sincèrement. Je pense qu'on peut reprocher à Proust d'avoir décrit la grande aristocratie française, à Iris Murdoch d'avoir décrit le petit milieu oxfordien, londonien, Bloomsbury, etc. Mais là, c'est vraiment un faux reproche. En fait, ce qu'elle décrit, là, c'est les drames qui se sont passés entre ces personnes-là à ce moment-là de notre histoire.
Une dernière question, Frédéric Worms, pour quelqu'un qui ne connaît pas Iris Murdoch, qui peut-être, s'il a l'âge d'être au lycée, va le découvrir à travers des textes, j'imagine plutôt autour de la question du bien, notamment son essai « La souveraineté du bien » dont nous parlerons cette semaine. Vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui ne connaît rien à Iris Murdoch de lire en premier, roman, essai confondu, voilà, si vous deviez en conseiller un?
Un roman, quand même. La mer, pourquoi pas.
Oui, vous en avez beaucoup
voilà,
parlé.
Pourquoi pas, mais au fond, peut-être n'importe lequel. Et puis, quand même, dans les textes philosophiques, j'hésite à conseiller le Sartre, pourtant c'est un livre que j'adore.
Mais il est difficile, quand même.
Il faut lire le premier chapitre.
Et puis, il faut connaître Sartre.
Mais le premier chapitre. Il faut sauter les introductions et aller directement au premier chapitre. Lire uniquement le premier chapitre. Et puis, peut-être effectivement, La souveraineté du bien, qui est dans son titre même tout à fait extraordinaire, parce que ça donne au bien sa véritable place, qui est de conduire nos existences.
In meiner Träume nimmt meine Seele die Gestalt eines graues Himmel an und mein Gesang verliert sich in der offenen See. Sich in der offenen See. Ich bin am Feuer, meine Finger sind kleine Pyramiden. Ich bin am Feuer, meine Finger sind kleine Pyramiden.
Merci beaucoup Frédéric Worms d'avoir ouvert cette semaine sur Iris Murdoch. Exceptionnellement, puisque vous étiez avec nous en plateau, on ne vous entendra pas pour votre chronique Le Pourquoi du Comment, mais de vous pour se consoler. On pourra lire la préface que vous avez donc écrite au livre d'Iris Murdoch, Sartre, un rationaliste romantique. Vous l'avez aussi traduit, c'est disponible aux éditions Payot. On pourra lire aussi Avec Bergson, un parcours paru au PUF, et vos chroniques justement rassemblées sous le titre Le Pourquoi du Comment, philosophie pour mieux vivre, disponible aux éditions Flammarion. Encore merci à vous.
Merci encore à vous.
Et merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Antoine Ravon, Philippine de Bellois, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Djibouar, à la réalisation Louise André, à la prise de son Élise Le. Pour retrouver toutes les émissions, rendez-vous sur le site de Radio France et sur l'application Radio France.